quand j'étais enfant, j'avais bien catégorisé le bien et le mal dans ma tête. Tout était très, très clair. Et peut-être vous aussi, vous pouvez comprendre cette simplicité. Pour moi, le monde fonctionnait selon deux catégories très distinctes et immaculées. Le shérif était toujours le gentil. Le cowboy mystérieux qui portait le chapeau noir était toujours le méchant. C'était clair. C'était bien délimité. Batman, d'un côté, le Joker, de l'autre. Superman, d'un côté, Lex Luthor, de l'autre. C'était facile. Optimus Prime, d'un côté, et Megatron, de l'autre. Facile, bien et mal. Mais de plus en plus, je constate que le monde n'est pas si simple que ça. Souvent, nous vivons dans une sorte de brouillard moral entre la lumière et les ténèbres obscures. Nous vivons dans un monde qui célèbre l'ambiguïté du conflit intérieur, où le méchant n'est pas tout à fait méchant et le bon gars n'est pas si bon que ça. La vérité absolue est estompée. Nos expériences nous enseignent qu'une vision du monde absolue, clairement divisée entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, c'est trop simpliste, tout simplement. Nous préférons un mélange des deux, n'est-ce pas? On est humain, après tout, trop humain. On est tenté de conjecturer qu'une croyance au Dieu trois fois saint est tout à fait compatible avec une vie trois fois impie. On est humain, après tout. Puis on ouvre la Bible et on est choqué de constater les mêmes catégories sévères et rigides. En lisant le psaume 1 cette semaine, j'étais frappé par la division claire et nette entre le bien et le mal. Le fait que Dieu ne nous permet pas de vivre dans le brouillard entre la lumière et les ténèbres. Quand Dieu nous appelle, il demande tout. Il n'y a pas de place pour les ténèbres. On va lire le psaume 1, comme j'ai dit, dans un moment. Et je veux que vous prêtiez attention au langage de ce psaume. Ce texte constitue un modus tollendo ponens. D'accord? Dans la logique, c'est un modus tollendo ponens. C'est-à-dire un syllogisme disjonctif exclusif. C'est-à-dire un simple choix entre deux modes de vie. D'accord? Soit la croyance, soit la méchanceté, mais pas les deux. D'accord? Soit l'un, soit l'autre. C'est simple. Donc on va lire le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cette occasion de lire et d'étudier ta parole ce soir. Je prie, Seigneur, afin que tu nous aides à comprendre le sens de ce texte et d'appliquer ce texte à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous remarqué le modus tollendo ponens dans ce texte? On est dans un camp ou dans l'autre, d'accord? Alors, le découpage de ce texte est assez facile à reconnaître. En fait, j'avais de la chance cette semaine parce que la forme poétique en hébreu a fait le travail de découpage pour moi. Donc, c'était assez facile. Mais les versets 1 à 3 nous présentent l'homme juste, d'accord? Les versets 4 à 5 nous présentent le méchant. Et le verset 6 résume la réaction de Dieu envers ces deux personnages. Et donc, je vous propose que dans un premier temps, on étudie le contraste qui est fait entre ces deux personnages et les deux modes de vie qu'ils représentent. Alors, on commence par le bon gars, le juste. Qui est-il? La première chose à constater, c'est le fait qu'aucune action de l'homme juste ne peut être associée à la méchanceté. Le verset 1 nous parle à travers des images qui décrivent des actions humaines. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Si les méchants se regroupent dans un endroit, l'homme juste ne se retrouvera pas parmi eux. Si les méchants marchent vers l'est, l'homme juste marche vers l'ouest. Si les méchants s'assoient dans un café sur un côté de la rue, l'homme juste va s'asseoir dans le café de l'autre côté de la rue. Si le méchant monte par l'ascenseur, l'homme juste va descendre par l'escalier. C'est ça l'idée, d'accord? La métaphore de ce verset implique que le comportement de l'homme juste ne devrait avoir rien à voir avec celui des méchants, des pécheurs, des moqueurs. Le juste ne figure jamais parmi les méchants. En revanche, le juste trouve son plaisir dans la loi ou dans la parole de Dieu. En hébreu, le mot « Torah » ou « loi » indique les instructions révélées par Dieu. C'est la parole de Dieu. Et donc, les pensées et la vie du juste sont caractérisées par un profond attachement à la loi de Dieu. Regardez le langage du verset 2. Il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il ne prend pas des petites gorgées de la parole de Dieu de temps en temps. Non, il engloutit la parole de Dieu. Vous voyez? Il resplendit d'amour pour la révélation de Dieu. Ce langage est très très important au message de ce psaume, parce que ça ne nous laisse pas dans un brouillard entre la lumière et les ténèbres obscures. On ne doit pas penser que nous pouvons vivre la plupart du temps dans le péché, sans égard à Dieu. On ne doit pas penser qu'une petite lecture de la Bible, une courte prière, ça va annuler les mauvais effets spirituels d'une vie remplie de rébellion, de convoitise, d'égoïsme. Pour prendre un exemple, on ne peut pas manger des hamburgers et des frites au McDo pour tous nos repas, en pensant que si on mange quelques petits bouts de brocoli ou de salade de temps en temps, ça annulera les effets néfastes de notre régime malsain, vous voyez? Le fait de méditer la loi de Dieu, ça veut dire que notre vie est caractérisée par une relation à Dieu, un amour pour notre Dieu, une soif pour sa parole. Ça veut dire qu'on est orienté vers Dieu dans nos pensées, dans nos actes, dans nos réflexions et dans nos réponses aux autres. Il n'y a pas de brouillard ici dans ce texte. Ce psaume nous présente un modus tollendo ponens. Soit notre vie est orientée vers Dieu, soit notre vie est orientée vers la ruine. Et si elle n'est pas orientée vers la ruine, alors l'autre option est claire, n'est-ce pas? C'est la logique. L'homme juste est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Ça, c'est une belle image donnée par le verset 3, n'est-ce pas? Ça me fait penser aux arbres situés dans les vallées des Alpes, des gros arbres luxuriants, des beaux arbres qui fleurissent au printemps, qui portent des fruits en été. Ce sont des arbres qui absorbent de l'eau et les bons nutriments de la terre, contrairement aux arbres qui poussent dans le désert. Si vous avez visité un désert, vous avez sûrement vu des buissons tout tordus qui luttent pour la vie dans les temps arides, qui restent latents et inactifs pour la plus grande partie de leur vie. C'est vrai que la végétation dans le désert peut facilement et rapidement renaître et prospérer dans une période humide, c'est possible. Mais elle peut disparaître aussi facilement quand la pluie s'arrête. Ce n'est pas une vie prospère comme celle des arbres fruitiers. Vous voyez la différence. On ne tourne pas notre regard vers le désert si on cherche à ramasser des bons fruits. Mais on se tourne vers les arbres bien arrosés. Et de même, le juste boit continuellement la parole de Dieu. Il est caractérisé par une orientation vers Dieu. Sa vie reflète le Seigneur. Et comme je l'ai dit, ce texte ne nous laisse pas dans une sorte de brouillard entre la lumière et les ténèbres. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, c'est un modus tollendo ponens exclusif, l'un ou l'autre. Et donc d'un côté, on nous présente un bon gars qui trouve plaisir dans la loi de Dieu, qui est planté fermement dans la parole de Dieu, et de l'autre côté, on nous présente le méchant. Alors le méchant, qui est-il? Il est de la paille, n'est-ce pas? La partie de la plante qui enveloppe le grain de céréales. La partie qui est enlevée parce qu'elle ne sert à rien. La paille, c'est la partie d'une plante qu'on ne mange pas. Les tiges de paille sont ramassées et utilisées dans les granges ou dans les écuries comme litière pour absorber le fumier des animaux. La vie de la paille ne finit pas glorieusement. La paille est inutile pour nourrir les gens, n'est-ce pas? C'est très clair la façon dont le verset 4 a été écrit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Si le juste trouve plaisir dans la parole de Dieu, il n'en est pas ainsi, le méchant. Si le juste médite la parole de Dieu, il n'en est pas ainsi, du méchant. Si le juste est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, il n'en est pas ainsi, du méchant. Le méchant est une tige de paille qui se dissipe dans le vent. Et encore une fois, il n'y a pas d'autre option, l'un ou l'autre. Gros arbre solide ou tige de paille. Voilà le contraste noir et blanc du premier psaume. Mais j'anticipe aussi des objections et ce qui pose des questions sur le contraste de ce psaume en raison. Ce n'est pas si clair et net que ça. La vie ne marche pas comme ça. En vrai, ce n'est pas le bon et courageux shérif contre le méchant hors de loi. Ce n'est pas le bon et parfait chrétien contre le méchant athée. Ça ne marche pas comme ça. J'entends l'objection. Nous vivons dans un brouillard entre la lumière et l'obscurité. Abraham, par exemple, le patriarche du peuple de Dieu a été menteur à plusieurs reprises, à plusieurs occasions dans la Bible. Moïse, qui a reçu la loi de Dieu, qui a même vu la gloire de Dieu, était un meurtrier. Il lui-même était interdit d'entrer dans la terre promise à cause de sa désobéissance à Dieu. David, un homme selon le cœur de Dieu, était un meurtrier et un adultère. Et certains apôtres du Nouveau Testament ont fait pire que ça. L'apôtre Paul, par exemple, le plus grand parmi les apôtres, a même persécuté l'Église de Jésus-Christ avant de se convertir. Donc comment se fait-il que le psalmiste ose mettre des choses si importantes dans un simple disjonctif comme s'il n'y avait pas cette vaste zone grise entre le bien et le mal? Comment expliquer le fait que nous sommes des êtres conflictuels et contradictoires, des êtres qui luttent perpétuellement contre le péché dans un monde qui nous semble moralement ambigu? Ce texte est-il honnête? Ce texte est-il honnête? Alors ma réponse à cette question est un oui retentissant. Le psalmiste est tout à fait conscient de ce qu'il dit. Il nous présente un idéal. Il nous présente exprès un contraste absolu dans un monde rempli d'ambiguïté. N'oubliez pas que ce texte fait partie de la littérature de la sagesse. La littérature de la sagesse qui inclut aussi les proverbes, l'Ecclésiaste, les cantiques des cantiques. La littérature de la sagesse emploie souvent des contrastes absolus afin de nous faire comprendre l'œuvre de Dieu et le caractère absolu de Dieu. Par exemple, les premiers chapitres de Proverbes emploient un contraste entre deux personnages. La femme sage et prudente, d'un côté qui représente la sagesse, et une péripatéticienne complètement folle, c'est-à-dire une prostituée, de l'autre côté. Si on marche dans la voie de la sagesse, soit on marche dans la voie de la sagesse, soit on marche dans la folie. Jésus himself a employé le même genre de langage quand il a dressé un contraste entre les brebis et les chèvres, entre les fils de Dieu et les fils du diable, entre la maison sur le rocher et la maison sur le sable, le chemin large, le chemin étroit. Vous voyez? Oui, nous vivons dans un monde qui célèbre l'ambiguïté du conflit intérieur. Oui, on souffre souvent dans une sorte de brouillard moral et spirituel. Mais quand il s'agit de la foi en Dieu, la Bible ne nous donne pas de troisième option. Jésus n'a pas donné trois choix à ses disciples, la vie, la mort ou un bon mélange des deux. Le but de ce psaume n'est pas juste de nous montrer la différence entre deux idéaux, l'homme juste et l'homme méchant. Le but de ce psaume est de nous amener au bord du vide. Vous voyez? Soit on saute, soit on recule, et on ne saute pas. Mais la Bible ne nous demande jamais de rester sur place. La Bible ne nous demande jamais une vie spirituelle médiocre. Jésus n'a pas demandé à ses disciples de porter leur croix seulement quand cela leur convenait, ni de le suivre seulement de temps en temps. Dans ce monde ambigu, Dieu nous confronte toujours à l'absolu de qui il est. Le modus tollendo ponens est bien devant nous dans ce texte. Soit la justice, soit la méchanceté. La méchanceté n'est pas une bonne option. C'est évident. Donc, la justice, alors. Mais comment? Comment? La difficulté d'un texte comme celui-ci, ou d'un contraste absolu, comme cela, c'est qu'en lisant ces versets, on sera tenté de penser qu'on se situe bien dans la catégorie des justes. On prend notre checklist et on coche les cases, n'est-ce pas? Le meurtre, non, ça c'est bon, c'est coché. L'adultère, non, c'est bon, pas de souci. Le vol, non, je ne suis pas voleur, ça c'est coché. L'idolâtrie, pas trop, donc ça va, coché. La convoitise, oui, mais c'est pas si grave que ça, donc ça c'est bon aussi. L'égoïsme, ce n'est pas un vrai péché, donc ça c'est bon. Les péchés impurs, pensées impures et tout ça, c'est pardonnable, c'est juste des pensées, après tout, personne ne sait, donc ça c'est coché aussi. Et voilà, je me donne un 15, même une 16 sur 20, c'est pas mal. Et vous? J'imagine que vous aussi, vous avez bien réussi. Même un 10 sur 20, ça va, ça passe, n'est-ce pas? Nous, les membres de l'Église réformée évangélique de Lyon, nous sommes sages, nous sommes gentils. Bien sûr, il y a des exceptions, comme le pasteur Alex, mais globalement, nous sommes tous assez corrects dans notre conduite, n'est-ce pas? Donc, ça va. Mais nous sommes en danger quand même. Quand on pense que tout va bien, on est en danger de vivre comme les pharisiens, à qui Jésus fait des reproches dans Matthieu chapitre 23. N'oubliez pas que les pharisiens et les scribes ont fait un vrai carton au niveau moral. Concernant toutes les lois qui sont visibles à nos yeux, ils ont reçu un 20 sur 20. C'était une note parfaite. Et comment Jésus les félicite? Comment Jésus a félicité les pharisiens pour tout ça? Alors, il les félicite en se demandant comment il est possible de sauver de l'enfer cette race de vipères hypocrites. Voilà ce que Jésus est en train de dire et que personne n'appartient au verset 1 à 3 du psaume 1 par sa propre justice. Personne. Quant à la vie spirituelle, il n'y a pas de zone grise entre la lumière et les ténèbres. Le but des contrastes absolus de la littérature de sagesse biblique est de nous mettre dans un camp ou dans l'autre. Et toute la Bible nous pointe vers Jésus, qui est l'absolu. C'est Jésus l'absolu. Jésus est le seul homme qui a accompli les versets 1 à 3 parfaitement. C'est lui qui a pris toute notre iniquité sur lui afin de nous donner sa justice. On est en danger quand on pense que nous sommes l'absolu dans le brouillard. Mais on est en sécurité, par contre, quand on reconnaît que Jésus seul est l'absolu. L'absolu qui découpe et qui enlève les ténèbres de notre vie. C'est par la grâce de Dieu en Jésus, par la foi en Jésus-Christ, que nous trouverons notre plaisir dans la loi de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que Dieu nous plante près d'un cours d'eau. Dans un monde qui célèbre l'ambiguïté morale, l'ambiguïté de la vérité, Jésus nous donne l'absolu du salut par sa mort à la croix. L'Évangile nous demande de vivre totalement dans la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ, tous les jours, tout le temps. On ne peut plus vivre dans la zone grise ou dans le brouillard spirituel, ce n'est pas possible. Si vous avez déjà visité la mer, vous avez sûrement vu des bancs de sable qui sont souvent recouverts par la marée. C'est un espace de no man's land, entre la terre ferme et la mer. Le fait que nos pieds touchent le sable nous donne un faux sentiment de sécurité. Et quand la marée monte, on se réfugie sur la plage. Mais dès qu'on ose retourner vers les bancs de sable, on risque d'être balayé de nouveau par les courants. C'est un no man's land. Et je me pose la question. Est-ce que nous sommes ceux qui marchent dans ce no man's land? Est-ce que nous tentons de vivre dans l'ambiguïté spirituelle, dans le brouillard entre la lumière et les ténèbres? Je veux que nous réfléchissions tous à cette question. Est-ce qu'il y a des domaines dans notre vie qui nous empêche de vivre pleinement pour Christ? Est-ce que nous pensons que nous pouvons vivre dans les deux réalités, la voie des justes et la voie des méchants, des pécheurs? Nous sommes hypocrites si nous prétendons d'être serviteurs de Christ tout en tentant de pratiquer nos péchés préférés. La foi n'est pas quelque chose à rechercher juste pendant les moments où on a besoin de réconfort ou de soutien spirituel. Elle doit caractériser notre vie. Si nous allons suivre Dieu dans la sainteté, il faut que nous identifions et résistions à ces choses qui nous emportent vers les ténèbres. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Modus tollendo, ponens, c'est simple, l'un ou l'autre, n'est-ce pas? N'oublions pas que nous sommes rachetés par Dieu, par le sang de Jésus-Christ à la croix, par la foi en Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous met dans le camp des justes. La grâce de Dieu nous a arrachés du désert afin de nous planter dans une terre fertile. Recherchons donc la grâce de suivre notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, avec tout notre cœur, avec toute notre âme, toute notre intelligence et toute notre force pour sa gloire. Amen. Prions. Seigneur, illumine devant nous le chemin qui mène à la vie. Écarte de nous le brouillard spirituel, le brouillard moral du monde qui nous tente de penser que nous pouvons vivre en même temps le salut et la perdition. Purifie, Seigneur, nous de toute injustice. Et aide-nous à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen.